Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Marco Le Ride, on me suit Mélanie Chalandon, Bertie Bourdon et Nicolas Sendé, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Jean-Guilain Meige. Deuxième temps de notre série consacrée aux monarchies, les monarchies au pied du mur, après avoir évoqué hier la royauté espagnole, avant d'aborder demain celle d'Arabie Saoudite et du Golfe de façon générale, et puis jeudi, avant d'aller donc au Maroc, ça sera jeudi, on se tourne aujourd'hui vers la Thaïlande, Ramadis de Thaïlande, le piédestal se fissure, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Nous devons être capables de parler de cette monarchie publiquement, tout en respectant le régime et l'institution monarchique. Je ne dis pas ça pour détruire cette institution, mais pour qu'elle puisse trouver sa juste place dans la société, dans le cadre d'une démocratie avec le roi pour chef d'État.
Je pense que si j'ai encore peur, le pays restera le même. Si nous voulons du changement, nous devons commencer à faire quelque chose, même si nous avons peur.
Maintenant, les gens parlent de monarchie parce que quelqu'un a commencé. Repousser les limites de la liberté de parole sur ce sujet, c'est un premier succès. Je me fiche de savoir si je serai emprisonné ou tué, je m'en fiche. Je veux juste un vrai changement dans ce pays.
Depuis plusieurs semaines maintenant, les manifestations se succèdent dans le pays pour demander davantage de démocratie. Fait notable, dans cette monarchie constitutionnelle où la personne du roi est sacrée et représente un tabou majeur, le monarque et le système sont pour la première fois ouvertement critiqués, on l'entendait à l'instant. De fait, la légitimité royale semble s'être considérablement émoussée depuis l'arrivée sur le trône de Rama X, succédant à son père, le très populaire Bhumibol Adulyadej, Rama IX donc, mort en 2016 après 70 ans de règne. Résidant le plus souvent en Allemagne, où il est resté toute la durée du confinement, soulevant de nombreuses critiques, le nouveau monarque a pris à son propre compte le fonds d'investissement de la monarchie, jusqu'alors géré par le ministère des Finances, de quoi susciter la méfiance de la population thaïlandaise, alors même que celle-ci considère la royauté comme garante de la stabilité de l'État, dans un pays où se sont succédé les crises politiques. Alors qui sont les manifestants pro-démocratie thaïlandais? Comment leur critique de la monarchie s'articule-t-elle? Le système constitutionnel est-il remis en question? Et comment le roi se positionne face à ce mouvement? Est-il soutenu par le reste de la classe politique, mais aussi et surtout peut-être par l'armée? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin d'abord David Camerou qui est avec nous ici en studio. Bonjour David Camerou.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, chercheur aux séries Sciences Po, parfois professeur à l'université d'Hanoï au Vietnam et depuis le confinement malheureusement vous n'avez pas pu y retourner. Avec nous également depuis Caen, Marie-Sybille de Vienne. Bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeure, vous, à l'INALCO et chercheuse au Centre Asie du Sud-Est. Vous êtes responsable de la revue Péninsule et vous avez signé, il y a quelques temps, en 2018, Thaïlande, une royauté bouddhique au 20e et 21e siècle. On va commencer avec vous, tiens, Marie-Sybille de Vienne, parce que ce week-end, il y a eu encore des manifestations, notamment d'ailleurs devant la prison de Bangkok où sont enfermés l'avocat des droits de l'homme Anon Nompa, dont on a entendu là la voix pendant le petit extrait, le petit montage sonore, et puis un autre militant pro-démocratie. Ils avaient été arrêtés tous deux après avoir manifesté en août dernier alors qu'ils étaient en liberté conditionnelle. On a l'impression là, ces derniers jours, ces dernières semaines, que le régime ne semble absolument pas enclin à faire retomber la pression. Il poursuit les arrestations, il n'y a pas vraiment de signe d'apaisement. Comment le comprendre, cette étonnante intransigeance? Alors, il n'y a pas encore de brutalité, mais on ne voit pas venir de gestes envers les manifestants. Pour quelle raison?
Alors, il y a deux éléments. Le premier, c'est qu'on a des manifestations qui sont des manifestations d'étudiants, de jeunes, donc lycéens et étudiants, et dont le soutien dans la population est moins large qu'on pourrait l'entendre, et qui en plus présente deux catégories de réformes, de demandes de réformes. La première, elle est en trois points, hein, c'est une réforme de la Constitution, la dissolution de l'Assemblée et la démission du gouvernement. Ce premier jeu de réformes a été considéré par le général Prayut comme discutable et comme une base d'ouverture.
Le dit général, qui est Premier ministre aujourd'hui depuis 2014, on y reviendra, voilà, pour les auditeurs.
Et l'auteur principal du coup d'État de 2014. Voilà. Ensuite, vous avez eu un deuxième lot de réformes proposées, entre autres, par le fameux avocat Arnon Nampa, qui a 39 ans, qui n'est pas dans cette catégorie de jeunes, mais qui est un militant de longue date du mouvement des juristes thaïlandais pour les droits de l'homme, et qui, lui, se lance dans une critique de la monarchie en faisant la liste de demandes de réforme qui sont reprises et approfondies le 10 août par un des mouvements issus de l'université de Thammasat, et qui, là, précise ces 10 points de manière très précise. Alors, parmi ce que vous avez évoqué, vous avez la question du bureau des propriétés de la couronne, et là, il faut comprendre que le bureau des propriétés de la couronne gère les actifs des biens liés à l'exercice de la fonction royale.
Alors, Marie-Sybille de Vienne, sans vouloir vous couper, on va venir à ce point-là, mais d'abord, peut-être une première action de l'un et de l'autre sur les manifestations d'aujourd'hui, avant de rentrer dans, évidemment, ce qui est le cœur du problème. Il y a plein de choses là-dedans, mais d'abord sur la situation elle-même, peut-être David Camerou aussi, un mot. Je disais, pas de geste pour le moment de la part du régime. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Il va y avoir dans quelques jours, le 19 septembre, une grande manifestation. Ça fait des jours, des semaines qu'on l'organise, qu'on la prépare. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre? Est-ce qu'il faut s'attendre à des violences? Il y en a déjà eu par le passé. La séquence 2006-2014 avait été difficile avec son lot de violences, mais il y a des épisodes dramatiques en Thaïlande. 73-76, où il y a eu à la clé des dizaines de morts. Est-ce que c'est à cela qu'il faut s'attendre pour les jours qui viennent?
Je crois qu'il faut s'inquiéter parce qu'il y a trois dates qui viennent dans mon esprit. Le premier, c'est 1932, donc la fin de la monarchie absolue, avec le Parti du Peuple, qui est une alliance, en fait, entre les intellectuels, les universitaires, surtout de Thammasat, l'université de Thammasat, et l'armée. Et pour mettre fin à la monarchie absolue et instaurer une monarchie constitutionnelle. L'autre, donc, c'était un coup d'État qui a déclenché ce mouvement, mais l'armée était aux côtés, en fait, des démocrates, entre guillemets, dans un premier temps. L'autre date, c'est bien sûr, c'est 73-76, où il y a une répression dans le sang. Hein.
Ça vous paraît possible, ça, aujourd'hui?
Difficilement, dans la mesure où les jeunes étudiants sont issus des classes moyennes, ça sera mal vu si on tire sur les jeunes étudiants, les lycéens. C'est pas le cas comme en 2010 où on a tiré sans problème sur les paysans. Hein. On est dans une cité extrêmement inégalitaire, la plus inégalitaire en Asie, et c'est justement une des causes de ces revendications. C'est on appelle monsieur le général Prayut le général de l'inégalité, hein. Et donc on peut attendre peut-être pas une répression violente. Ça n'a pas empêché l'assassinat des dissidents en dehors de la Thaïlande, surtout au Cambodge.
Marie-Sybille de Vienne, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les raisons qui ont poussé à cette série de manifestations? Il y a des problèmes structurels de fond, mais au fond, qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres?
Alors, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la dissolution le 23 février 2020 du parti Anakot Mai, Nouvel Avenir, Future Forward en anglais, et qui avait été fondé en mars 2018 et qui était très populaire parmi les jeunes urbains éduqués. Il a été dissous pour une raison de droit, en considérant que le prêt de à peu près 5 millions d'euros effectué par son dirigeant, le milliardaire Thanatok, était en réalité un don déguisé. Alors bien sûr, c'est une décision de la Cour constitutionnelle qui n'est pas totalement neutre. Donc ça déclenche le mouvement des étudiants dans les campus. Et puis, le confinement va stopper un petit peu tout ça, et ça repart suite à plusieurs facteurs. Le premier, c'est l'enlèvement à Phnom Penh d'un opposant qui n'était pas l'un des moindres, Wan Chalam, qui était l'ancien chargé de communication d'un des vice-premiers ministres du gouvernement d'Yingluck, la sœur du premier ministre Rouge Thaksin. Il disparaît, il est enlevé. Et puis, vous avez donc ça, c'est le 9e cas de disparition d'un opposant thaïlandais dans le sud-est asiatique. Donc là, je dirais l'inquiétude, le mouvement recommence à bouillonner chez les jeunes. Vous avez une première manifestation le 24 juin à Bangkok pour l'anniversaire de la Constitution 1932. Et puis quand les commerces, les établissements se mettent à réouvrir, puis quand on s'aperçoit que les mesures anti-Covid ne sont pas suivies par tous et en particulier par des étrangers dans le sillage de diplomates qui ont des statuts privilégiés, alors là, ça refait éclater, rebouillir la marmite sur la question de l'identité. Et les manifestations, bien évidemment, redémarrent en juillet.
David Camerou, Marie-Sybille de Vienne nous dit pas une décision totalement neutre que celle d'interdire ce parti Future Forward, donc le parti tourné vers l'avenir, qui était arrivé en troisième position lors des élections législatives de mars 2019.
Je crois que c'est 81 députés, en fait.
81, alors, moi j'ai lu ça, en tout cas, est arrivé en très bonne position, et donc, politiquement gênant, en réalité, c'est un classique dans la politique thaïlandaise, c'est-à-dire quand il y a un parti qui vise à réformer, qui se retrouve comme ça sur le devant de la scène, on le disqualifie. Alors par le truchement d'une décision de justice, mais on s'arrange pour qu'il ne soit plus en place. Et d'ailleurs, les députés, pour la plupart, ont été suspendus après quelques mois où ils ont pu effectivement porter les procès. Je voulais vous donner la parole, Marie-Sybille de Vienne, mais on va essayer de faire tourner. David Camerou.
Oui, ben aussi cette déception parce que le parti Nouvel Avenir, il y avait beaucoup de soutien des jeunes, et en fait c'est une voile, pour une fois légitime de l'opposition. On le supprime et il n'est pas du tout étonnant qu'on va trouver d'autres moyens pour s'opposer. Je crois qu'il y a aussi, du fond, il y a un aspect dans cette société très paternaliste, en fait. Que Prayut, qui écrit les chansons, qui traite les étudiants comme les enfants, les jeunes ont un peu ras-le-bol, en fait. Ça, c'est suscité dans les lycées. On porte les uniformes dans les lycées, comme dans l'université, au moins au niveau de licence. Et en fait, ce discours paternaliste ne va plus parmi les jeunes qui sont hyper mondialisés, qui sont sur les médias sociaux, qui connaissent très bien, s'ils sont avec le K-pop, en fait, ils sont très branchés sur ce qui est culture populaire, disons mondiale. Et quelque chose ne va pas, en fait. Au même temps, le roi Bhumipol, qui lui était le père, considéré comme le père de la nation, est remplacé par un fils qui a tout à fait le contraire, hein, qui n'est pas le roi bienveillant. Au contraire, c'est le roi qui sont fils totalement de son peuple, le fait qu'il reste en Allemagne. Et donc, il y a eu des tweets, en fait, une hashtag, « Where is the king ?»« Où est le roi ?» et que, avec une telle arrogance et un tel mépris, qui montre pas simplement une certaine violence dans le caractère, mais une manque totale d'appréciation politique.
Marie-Sybille de Vienne, je vais vous laisser réagir, parce que j'entendais que vous souhaitiez le faire sur la question de l'interdiction de ce parti. Mais pour avancer aussi, et pour peut-être rattraper notre sujet qui est vraiment celui de la monarchie. C'est vrai qu'on a vu dans ces manifestations des personnes qui s'en prenaient frontalement à la monarchie. Et ça, c'est quelque chose d'un peu nouveau. Il y a des jeunes qui sont capables, comme cette jeune étudiante en sociologie de 21 ans qui est devenue un peu l'une des égéries du mouvement qu'on surnomme Rung, qui est montée sur scène pour exiger un certain nombre de réformes de la monarchie. Il y a évidemment le jeune avocat que vous avez évoqué tout à l'heure, Anon Nompa, qui est devenu instantanément une célébrité en s'adressant à une foule affublée de cette écharpe d'Harry Potter, en invoquant celui dont on n'a pas le droit de prononcer le nom, le méchant Voldemort étant dans le contexte le roi Ramadis. Je voudrais que vous nous éclairiez sur cette critique assez nouvelle de la monarchie. Comment se fait-il, selon vous, qu'elle devient là, visible, ostentatoire, Marie-Sybille de Vienne?
Alors, elle devient visible déjà parce que vous avez eu un vide considérable entraîné par la mort de roi Mumipol, Rama IX. Les funérailles ont été absolument spectaculaires et pour les avoir suivies à pied dans plusieurs quartiers de Bangkok, vous aviez toute classe d'âge qui y participait, y compris des jeunes ou des très jeunes, et également des gens issus aussi bien de soutien du mouvement du premier ministre Thaksin que des soutiens traditionnels de la monarchie. Donc on a un système qui a duré très longtemps, qui s'est effondré, comme toujours en Thaïlande, dans la longue durée de la monarchie. Tous les liens qui étaient tissés autour du roi, son réseau d'influence, les instruments qu'il contrôlait, que ce soit au niveau du palais, que ce soit au niveau de son conseil privé, tout ceci s'est totalement délité. Et il a été remplacé par son fils, qui n'a pas du tout évidemment la même aura, et qui a fait un certain nombre de réformes qui ont constitué à centraliser un certain nombre de leviers autour de lui-même au palais. C'est-à-dire qu'il a unifié la chaîne de commandement, il s'est fait remettre la supervision des 4 agences d'État dont 2 gèrent la sécurité royale et les 2 autres gèrent le palais, la supervision est directement sous ses ordres. Et il a aussi rassemblé la structure gérant les biens privés du roi avec celle gérant les actifs liés à l'exercice de la fonction royale. Ce qui ne veut pas dire que les deux séries d'actifs ont fusionné. Ce sont, quand vous regardez sur les documentaires du palais, c'est assez clair.
Alors, c'est étonnant parce que quand on regarde la constitution, en réalité, le pouvoir du roi est assez limité. Là, on a au contraire un roi qui va récupérer un certain nombre de prérogatives.
Il récupère des leviers, des instruments de contrôle, et c'est vraiment en termes militaires la centralisation de la chaîne de commandement autour de sa personne. Ouais. Ceci étant posé, en même temps, il y a eu plusieurs éléments qui ont été faits. Parce qu'on peut critiquer le roi actuel de Thaïlande, mais c'est loin d'être quelqu'un qui n'a pas de moyens intellectuels. Alors la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a demandé à ce que la holding du bureau des propriétés de la couronne, bureau des propriétés du roi, paye désormais l'impôt sur les sociétés. Avant, il n'y avait que les entreprises où la couronne avait des participations qui payaient l'impôt, mais pas la holding. C'est déjà un premier point. Ensuite, il a fait savoir qu'il fallait arrêter d'utiliser l'article 112 sur le lèse-majesté pour arrêter des opposants au régime, ce qui n'est pas non plus quelque chose de stupide. Et enfin, il a fait transférer donc des unités chargées de sa sécurité sous son contrôle, mais en même temps, il a fait éloigner de Bangkok des unités qui traditionnellement étaient arrivées en première ligne lors de coups d'État militaires. Alors, donc vous voyez que c'est complexe. Alors bien sûr, à titre personnel, il vit en Bavière, ça veut pas dire qu'il n'est pas informé, mais et sa fonction est essentiellement une fonction symbolique et rituelle. Ses capacités d'influence ne sont évidemment pas, pour toutes les raisons que nous connaissons et sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, celles de son père, et ne le seront jamais.
David Camerou, quand on fait le jeu de comparaison entre les manifestations d'aujourd'hui et celles de 2016-2014, en 2016-2014, il y avait eu précisément des mouvements très forts de soutien envers la monarchie. Aujourd'hui, les gens qui descendent dans la rue pour soutenir Rama X, ils sont très peu nombreux. Il y en a eu quelques-unes, des manifestations.
Oui, quelques centaines.
Mais très peu par rapport à ce qu'on a pu voir ces dernières années. Est-ce qu'on explique cela seulement par la personnalité de ce roi qui n'a pas l'aura, nous disait Marie-Sybille de Vienne, de son père, par le fait qu'il essaye de concentrer les pouvoirs et que ça ne plaît pas à l'opinion thaïlandaise et en particulier aux jeunes générations?
Je crois qu'en fait, oui, il essaie de, en fait, centraliser le pouvoir. Le bureau de propriété du roi, c'est quand même 30 milliards de dollars. En fait, c'est pas un pactole. Mais je vois que c'est ça. Je parle de 32. L'armée, en fait, l'alliance entre l'armée, en fait, les soutiens royaux, l'armée fonctionne en tant que ceux qui soutiennent le roi. Et ça c'est un peu fichuré avec Prayut. Le roi essaie de un peu diminuer le pouvoir du général Prayut, justement comme Marie-Sybille vient de l'expliquer, en mettant un certain nombre de bataillons sur son commandement direct, en éloignant ceux qui sont en général responsables des coups d'État. Et là, il y a en général affaibli. Au fait, en plus, la Covid s'ajoute. Parce que sa réaction, bon, le Thaïlande n'a pas trop souffert, mais quand même il y a eu des critiques de justement de la gestion de la crise, de la pandémie. Mmh. Et en fait, le confinement a fait en sorte que ça a laissé la possibilité aux jeunes de en fait de un peu cogiter en fait sur sur cette situation qui devient un peu peu intenable.
Marie-Sybille de Vienne, si on poursuit un peu le jeu de comparaison avec la crise qu'on pourrait étaler de 2006 à 2014 et tous les mouvements pro-démocratie, à l'époque les revendications c'était des élections libres, c'était le retour de la démocratie. Aujourd'hui, on a vraiment le sentiment que la question de la monarchie et de la réforme de la monarchie est très importante. Elle est même presque première. Et c'est d'ailleurs la position que tenait Rung, que j'évoquais tout à l'heure, cette jeune étudiante en sociologie de 21 ans, qui est devenue vraiment l'une des figures de proue hein, du mouvement. Elle confiait ça dans un article du Monde. Est-ce que vous comprenez sa position? C'est-à-dire aujourd'hui, au fond, pour avoir le retour de la démocratie, il faut d'abord passer par une réforme de la monarchie et pas l'inverse.
Alors, c'est une position, parce que nous avons, nous, avec beaucoup de sympathie, en tant que France républicaine, un regard quelque peu biaisé sur ce qui se passe. Vous avez vraiment un clivage générationnel sur ce point de vue, et un clivage aussi entre les gens instruits qui ont accès aux classes de lycée et qui ont accès à l'université, et le reste de la population. Je vous en donne deux attestations. Vous avez d'abord eu un sondage effectué sur les plus de 18 ans dans les règles de l'art, par le NIDA, qui est un des grands instituts de formation de la bureaucratie en Thaïlande, sur un échantillon de 1250 personnes. Et vous avez 19% des sondés qui sont d'accord avec les manifestants, 24% qui les condamnent, et une position, et entre les deux, des gens qui sont d'accord avec certains éléments de demande et pas avec d'autres. Et en particulier, c'est la question de la monarchie là-dessus. Alors, l'université, une grande université thaï, a fait un sondage en ligne où là, vous avez eu près de 200 000 réponses. Et vous avez 59% qui estiment que les demandes de réforme sont normales en démocratie. Sans spécifier si c'est celle de réforme de la monarchie ou de réforme tout court. Mais vous en avez en même temps près de 42% qui disent qu'il ne faut pas marcher sur les plates-bandes de la monarchie, étant entendu que ce sondage-là, il y avait deux réponses qui étaient possibles. C'est pour dire que la situation est complexe. Et pour revenir à la comparaison avec 2006, 2010, 2014, 2006, vous avez des manifestations massives pour faire sauter le Premier ministre Thaksin, qui n'est plus que acting, enfin premier ministre en charge, mais le Parlement n'a pas pu siéger parce qu'un certain nombre de sièges n'ont jamais pu être pourvus, ce qui, dans la constitution du moment, l'empêche de siéger. Donc, il y a un blocage constitutionnel complet, et ça se termine par un coup d'État. Avant, vous avez eu toute une série de manifestations, entre autres orchestrées par la presse. Vous avez ensuite le clivage rouge, jaune, et vous avez surtout des gens de tout acabit, y compris des ruraux que les deux groupes payent pour aller manifester à Bangkok, pas très cher, autour de 500 bahts, et ce sont des manifestations où un certain nombre de gens vont armés, et dans certains cas, vous avez des gens qui vont manifester avec des bazookas. Le climat, le summum est 2010, où vous avez l'assaut par les rouges du centre commercial de Central au plein cœur de Bangkok, et aussi, on l'a oublié, l'assaut d'un des plus gros hôpitaux de Bangkok en face de la Croix-Rouge, parce qu'on croyait que l'armée y avait mis des snipers. Ce qui était faux, les snipers étaient en face. Donc là, vous avez un contexte de violence qui est très forte et insurrectionnelle. Aujourd'hui, on a des jeunes qui manifestent
pacifiquement,
parfaitement pacifiquement,
sur des campus,
sur des campus ou dans des endroits emblématiques comme le monument sur la démocratie. Et ce qui est très inquiétant, c'est si jamais tel ou tel mouvement veut faire déraper la situation, et si on y voit arriver des gens qui font de la casse et qui font un petit peu ce qu'ont fait les Black Blocs dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes en France, là ça peut déraper. Simplement, on n'est plus en 73, il n'y a plus la pression du bloc communiste, on n'est plus en 76, la Thaïlande se trouve pas sur la ligne de front avec de l'autre côté les Khmers rouges et plusieurs centaines de milliers de réfugiés sur son sol. On est en 2020, on a en face de soi des jeunes éduqués, on n'a plus de la guerre froide. Donc ça explique que le gouvernement a du mal à traiter. Et en même temps, c'est vrai que l'évolution, la succession, l'évolution de ce qui a été fait au niveau de la monarchie pose pour ces très jeunes éduqués. Et derrière, vous avez tous les réseaux des constitutionnalistes. Il ne faut pas oublier que le parti Nouvel Avenir avait comme secrétaire général Pi Aboutre, professeur de droit constitutionnel et formé en France, qui lui faisait partie d'un des réseaux de soutien aux droits de l'homme, qui était le réseau Nitirat. Donc ces réseaux de juristes, ces réseaux de spécialistes, par le biais des jeunes, de leur soutien des jeunes éduqués, ont actuellement, au regard du contexte qui prévaut de la monarchie, des instruments qui sont des instruments de pression. Et de fait, ce qui explique la brouille entre les militaires et le parti Anakotmai, Nouvel Avenir, c'est que c'est le seul parti au Parlement thaïlandais qui avait refusé de voter la loi en urgence proposée par le souverain visant à réorganiser la gestion des régiments autour de Pangkok et en particulier à en faire envoyer un certain nombre à l'extérieur. L'héritier du parti de M. Thaksin, rouge, avait voté la loi. Donc à partir du moment où Anakotmai est le seul parti d'opposition à refuser de la voter, il est dans le collimateur du général Prayut et de l'establishment, et il s'agit de le faire tomber. Ouais, c'était pas du tout ce qui était voulu au départ, parce que, attendez, vous avez parlé de 81 sièges. Ils n'en ont obtenu que...
50.
Ils en ont eu 50... qui ont été accordés sur d'un scrutin de liste, sur la base d'un ratio, en termes de sièges obtenus par vote simple au premier tour, ils n'en avaient obtenu que 30. Donc c'est de tous les partis politiques thaïlandais, celui qui, en valeur absolue, a été le plus avantagé en nombre de sièges sur la base d'un scrutin de liste. Donc, entre guillemets, les militaires, le gouvernement Prayut espérait qu'il jouait le jeu, jouerait le jeu, je cite un de mes interlocuteurs, j'ai eu que ça ce sujet, et c'est un parti qui n'a pas courbé les chines.
C'est entendu, Marie-Sybille Devienne. David Cameron, vous voulez réagir?
Oui, les demandes des manifestants sont pas des demandes révolutionnaires, en fait, c'est les demandes...
Vous les rappelez concernant la réforme de la monarchie, justement, en particulier?
La réforme de la monarchie, mais aussi, en fait, il y a deux conceptions de pouvoir qui est derrière. Pour Prayut et pour les royalistes, les bons gouvernants sont les hommes, surtout les hommes, qui sont sages, bienveillants. Et que la démocratie, c'est, ça permet justement aux gens qui sont pas instruits, de gouverner. Donc, il y a une vision, du pouvoir qui est maintenant, qui est refusée par les jeunes, et le fait qu'on a politisé toutes les institutions comme le Cour constitutionnel, comme la commission électorale, pour que ça devienne les armes justement de répression, en fait, au moins de contrôler l'opposition, fait en sorte que, c'est ça la différence avec 97, avec la nouvelle constitution de 97 qui a soulevé beaucoup d'espoir à l'époque, c'est que toutes ces institutions neutres, entre guillemets, sont politisées. Donc ce qui reste, il y a aussi dans le monde des étudiants, l'abolition du Sénat, au moins pour avoir un Sénat élu. Le Sénat est nommé par l'armée et par le roi. Et pour demander qu'il y ait un Sénat élu, surtout qu'ils sont très bien payés à, je crois, de 8 000 € par mois, ce qui est quand même assez significatif pour pouvoir faire grand-chose. Et que Prayut lui-même était nommé premier ministre, mais dans la constitution actuelle, qui est quand même, je crois, le 20e depuis 1932, le premier ministre n'est pas obligé d'être un député ou élu au Parlement.
Et il demande aussi l'abolition, évidemment, du crime de lèse-majesté, ce fameux article de la constitution.
Oui, oui. Il faut dire que le roi demande qu'on n'utilise plus, mais justement là, on utilise plus depuis 2017, pas beaucoup le crime de lèse-majesté, mais en même temps, on a renforcé sur toutes les lois sur les médias sociaux pour justement, on a trouvé d'autres façons pour réprimer l'opposition en n'utilisant pas justement le crime de lèse-majesté.
En cette occasion, j'invite tout le monde ici et tous les Thaïlandais à partager ma détermination et à travailler ensemble, chacun en fonction de son statut et de son devoir, avec comme objectif ultime la prospérité de la nation et le bonheur du peuple.
Voilà, extrait du discours de Ramadis lors de son couronnement en mai 2019. Il avait fallu attendre un petit peu justement pour avoir le couronnement. Les jeunes manifestants, vous l'avez dit, David Kamerou, ne demandent pas la fin de la démocratie. Ils demandent seulement de la monarchie. Ils demandent seulement une réforme de cette monarchie. Pourquoi, au fond, Ramadis la rejette? Constitutionnellement, les pouvoirs du roi ne sont pas colossaux. Il a une fortune extraordinaire, on dit que c'est l'un des monarques les plus riches du monde. Par ailleurs, il a pas l'air d'être extrêmement investi, en tout cas de loin, dans la vie politique de son pays, puisqu'il vit la plupart du temps en Allemagne, dans un hôtel de luxe en Bavière. Pourquoi est-ce qu'au fond, il s'oppose à la réforme de la monarchie? Qu'est-ce qu'il aurait à perdre?
C'est surtout, je crois, une réaction d'arrogance, hein, en fait, l'aspect personnel. Et avec question au moment du décès du roi, est-ce que, en sachant qu'elle était très impopulaire, est-ce qu'on mettrait sur le trône sa sœur, la princesse Shunandon, qui elle est très populaire, qui est un peu elle qui se sacrifie pour son pays, qui s'est jamais mariée qui était un peu vraiment la sœur. En fait, la fille de son père, responsable de plein d'œuvres caritatives, par exemple. Donc, il y a une question vraiment de pouvoir, de garder ce pouvoir qu'il a quand même agi. Et je crois que pour lui, c'est un peu quitte au double, que s'il fait les concessions là-dessus, peut-être c'est aussi la fin de lui sur le trône.
Est-ce que vous êtes d'accord, Marie-Sybille Devienne? Au fond, là, il essaye de se sauver lui-même d'une certaine manière. Et puis, pour poursuivre un tout petit peu sur la sœur, parce qu'effectivement, il y a eu un moment l'année dernière où on a pensé que la princesse, justement, pouvait peut-être devenir Premier ministre. En tout cas, elle s'est présentée sous la bannière du parti.
C'est pas la même sœur.
C'est pas la même sœur. Alors, en l'occurrence, c'est la princesse Ubolratana, pardon.
Ça se prononce Ubolrat.
Ubolrat. Alors, Ubolrat, qui s'est présenté sous la bannière du parti Thairaxachat, qui est le parti affilié à l'ancien premier ministre Thaksin Shinawatra. Et très vite, le palais s'est opposé à cette option. Pourtant, d'abord, elle jouit, elle aussi, d'une très bonne popularité. Et puis, ça aurait été intéressant d'avoir au poste de Premier ministre une femme qui, a priori, est quand même assez sensible aux intérêts de la monarchie. Ça aurait été agile.
Alors ça, c'est vu d'un point de vue accidental. Ouais, premièrement, Ubolrat a épousé un Américain, a quitté la famille un certain temps. Elle a perdu son titre d'alsace royale. Elle est simplement désignée en taille par le terme de fille de la reine. Mais elle reste partie intégrante de la famille, comme ça a été rappelé lors des funérailles du roi, où elle a assisté à tout le rituel, où elle a été elle-même reçue des éléments de titulature comme du roi actuel. Deuxièmement, qu'est-ce qui paye pour financer Ubolrat? C'est sa famille, c'est le roi. Elle vit uniquement des subsides de la couronne, donc constitutionnellement, ça posait un énorme problème d'avoir quelqu'un qui, certes, avait plus le titre d'altesse royale, mais qui continue, permettez-moi de passer l'expression, d'émarger au bassinet. Donc ça, c'était pas possible. Donc elle avait pas beaucoup de chance. Elle était elle-même assez bien, d'ailleurs. Elle a été au mariage d'un des enfants de Thaksin à Hong Kong. Donc elle était une figure qui n'avait aucune compétence politique, qui avait fait un peu une figure du type people, avec une histoire intéressante. Mais pour ce qui est d'être Premier ministre, elle n'avait en aucun cas les compétences. C'était du même niveau que si vous mettiez Jane Birkin ou Catherine Deneuve, pour lesquelles j'ai beaucoup de respect l'une et l'autre, au poste de Premier ministre.
Ouais, c'est pas le sujet. J'aime pas beaucoup la comparaison. J'aime beaucoup Jane Birkin.
Elle a fait du cinéma. Elle a fait du
j'entends,
cinéma.
J'entends, je plaisante.
C'était un peu un de ses modèles.
Je comprends, j'entends.
C'est partie de ses modèles.
J'entends.
Donc, c'est en ce sens-là. Le deuxième élément, en étant beaucoup moins bonne que les actrices que j'ai citées, rien à voir. Alors, deuxième élément là-dessus, vous avez évoqué le cas de la princesse Sirindorn, depuis 1974, dans des conditions extrêmement restrictives, toutes les constitutions rappellent qu'une princesse peut monter sur le trône. Mais le prince, le roi actuel, a été intronisé comme prince héritier de la part de la volonté de son père. Et la princesse Serindon a fait savoir de manière répétée qu'elle n'était pas candidate pour le poste et qu'elle jouait la légitimité familiale.
Bon alors, pardon de vous couper, mais comme le temps avance, je voudrais distribuer la parole de façon un peu équitable. David Camerou, on fait quoi maintenant? C'est quoi les options? Il n'y a pas d'alternative pour le trône. On sent qu'il n'y a pas de geste aujourd'hui de la part de la monarchie. On est dans un blocage total. Qu'est-ce qui peut se passer? Un nouveau coup d'État? Des nouvelles élections? Comment vous voyez la suite?
Le roi a quand même réagi en redonnant à son consort, en fait, avec la princesse, en fait, son épouse, la nouvelle, redonner ses titres. Il était destitué de ses titres à un moment. Donc, il a montré un petit geste, mais c'est vraiment un geste pas vraiment vers la démocratie.
Non, pas vraiment. Vous parlez de Coy, hein, qui est l'ancienne concubine du roi, qui avait été l'année dernière déchue de tous ses titres et qui a tout récupéré.
Oui, oui. Ouais. Oui.
Enfin, ça n'a rien à voir avec les manifestations.
Non, rien.
Non. En fait, c'est vraiment au général Prayut plus qu'au roi. Hein,
de décider.
De décider ce qu'il souhaite faire. Est-ce qu'il est quand même affaibli par rapport au roi? Mais est-ce qu'il y a aussi une possibilité de faire les concessions envers les
manifestants. Comment vous pouvez poursuivre un peu?
Non, mais envers les manifestants, par exemple, sur les questions du Sénat ou peut-être les nouvelles élections.
Quand même, au cœur des revendications chez les manifestants, c'est la question de la réforme de la monarchie. Donc, ça ne répondra pas aux attentes.
Non, mais il peut éventuellement revenir, en fait, sur cette décision qui accordait au roi plus de pouvoir que par le vent.
Ah, il a la capacité de le faire.
S'il a le soutien de d'autres éléments de l'armée et autour en fait du roi, parce que le roi reste quand même impopulaire. Il a son coterie qui le soutient, mais il ne bénéficie pas, comme son père, de cette affection de l'ensemble de la population.
Marie-Sybille de Vienne, ça vous paraît une option possible, c'est-à-dire un bras de fer entre le Premier ministre Prayut et le roi actuel, qui viserait à récupérer un certain nombre de pouvoirs et de droits qu'il s'est accaparé ces derniers mois?
Alors, il faut bien voir que c'est pas accaparé. Il y a eu une réforme de la Constitution, il y a une modification de la Constitution 2016 qui est devenue la Constitution 2017 pour...
Pardon, c'est pas une réforme qui a été passée avec un Parlement parfaitement librement élu, avec des élections parfaitement transparentes et des partis autorisés. Donc c'est un peu de l'accaparement quand même.
Non, ce que je suis en train de vous dire, c'est que on essaye. L'idée, c'est quand vous voulez bouger le système, vous touchez. C'est pour ça que les éléments liés aux constitutions sont importants, parce que vous allez réécrire une constitution pour une mesure provisoire et en réécrire une autre, parce que pour que avoir une reconnaissance à la fois internationale et de plus en plus nationale, il faut passer par un cadre qui est un cadre de droit, qui est un cadre législatif. Donc la question de la Constitution est centrale. Alors maintenant, il y a plusieurs inconnus. On ne sait pas la position du roi, parce que l'hypothèse que le roi est à 100% avec le gouvernement actuel est une hypothèse. Ça ne reste qu'une hypothèse. Rien ne permet de l'infirmer ou de la confirmer. Si, pour que le roi se maintienne, il faut modifier la Constitution et abandonner, c'est un scénario bien sûr comme un autre, et abandonner une partie, en particulier le contrôle, remettre le bureau des propriétés de la couronne, et pourquoi pas les biens privés du roi, remettre tout ça plus en transparence et avec une supervision du ministère des Finances, ça c'est un des points, des 10 points qui a été demandé par les étudiants, à la limite, pourquoi pas, si vous voulez. Tout le problème de ces deux acteurs qui sont la monarchie d'un côté et le gouvernement de l'autre, c'est de savoir quel pion avancer pour maintenir la stabilité et préserver autant que faire se peut sa position. Puis vous avez un autre phénomène qu'on ne maîtrise pas, c'est que le schéma classique, quand vous avez un gouvernement dont le Premier ministre est un ancien militaire, c'est de renverser le général Premier ministre par un groupe d'officiers supérieurs, souvent le commandant en chef des armées ou le chef d'état-major, les forces armées, etc., par des militaires qui sont encore d'actifs et qui sont plus jeunes. Donc ça, c'est ce qui s'est passé sur presque la plupart des coups d'État militaires dans le passé en Thaïlande. Donc, est-ce que le général Prayut va tenir les gens qui sont en dessous dans l'armée? Or, traditionnellement, les nouvelles nominations à la tête de l'armée thaïlandaise ont lieu deux fois par an et les prochaines rotations sont pour octobre. Donc, il y a un certain nombre d'inconnus qui sont derrière.
Donc, il va falloir regarder ce qui va se passer derrière ces nominations.
Oui. Ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un besoin de réforme. Il y a quand même, se dégage une volonté de réforme, une demande de réforme dans le domaine social. Une volonté aussi de sortir des dispositions provisoires que vous avez évoquées, qui sont celles de l'actuelle constitution, avec un Sénat monté à 250 et dont tous les membres ont été nommés, pour retomber sur un Sénat à 200 qui pourrait très bien être élu. Donc il y a vraiment au niveau, indépendamment même du dossier strict de la monarchie, si on veut avoir un système qui soit qualifié de démocratique, il y a la nécessité d'une réforme constitutionnelle.
Oui, il y a des défis là, clairement, pour le pays. Il y a un autre conflit qui compromet l'unité du royaume depuis plus d'un demi-siècle, un conflit ethnico-géographique entre Thaïs bouddhistes et les zones du sud, à la frontière avec la Malaisie, à majorité musulmane, dans les provinces de Patani, Yala et Narathiwat. On va en parler tout de suite. On parle aujourd'hui de la Thaïlande avec David Camerou et Marie-Sybille Devienne. Vous écoutez France Culture, vous écoutez Culture Monde.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Ça s'est passé entre notre champ et celui des musulmans. Ils étaient cachés et ils nous ont tendu une embuscade. Au début, j'ai juste entendu des coups de feu. Je croyais que c'était des chasseurs. Mais c'est devenu une vraie fusillade. Ils ont tiré environ 30 à 40 balles. Ils étaient 7 et ils avaient des foulards sur le visage. Mon frère a crié « À l'aide, à l'aide !» J'ai réussi à m'enfuir.
Voilà, extrait d'un documentaire qui avait été diffusé dans Envoyé spécial Thaïlande à l'ombre du paradis. On va retrouver tout de suite une nouvelle invitée, Virginie André. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct de la Laponie. Vous êtes islamologue, chercheuse à la Victoria University de Melbourne et membre de l'Institut de recherche sur l'Asie du Sud-Est contemporain. Depuis des décennies maintenant, Virginie André, il y a des heurts fréquents qui secouent les régions du Sud. À titre d'exemple, en mars dernier, il y a une bombe qui a explosé devant le bureau thaïlandais chargé de l'administration des trois provinces que j'ai évoquées tout à l'heure, Patani, Yala et Narathiwat, à majorité donc malaise et musulmane. Alors c'est difficile de savoir, d'avoir un bilan de ces violences, mais les chiffres évoquent 7000 morts depuis 2004. Pour comprendre ce conflit, Virginie André, qui lui aussi met à mal l'unité de ce royaume, il faut revenir un peu en arrière. On va faire un tout petit peu d'histoire. Lorsque ces provinces sont annexées au royaume de Siam, majoritairement thaï et bouddhiste, vous nous racontez en quelques mots ce moment-là qui est important pour comprendre la suite.
Oui, donc c'est un conflit qui, je pense, peut être marqué par cette annexion du Grand Sud au royaume thaïlandais majoritairement bouddhiste, comme vous l'avez dit, en 1904, où cette partie du pays en fait a été rajoutée donc au royaume. Et à partir de ce moment-là, on a passé de 1904 à 1900, ou dans les années 50, en fait, s'est suivi une vague importante de réformes dans la Thaïlande et dans d'autres régions comme dans le sud, le grand sud de la Thaïlande, où il y a eu des tentatives de moderniser, en fait, et de créer cette unité de l'État thaïlandais, donc sous trois piliers, qui sont la nation, religion et monarchie. Alors, le problème qui s'est posé dans le cas du Grand Sud, c'est que cette partie de la Thaïlande, à l'époque, avait sa propre monarchie, sa propre nation et sa propre religion. Et donc, vous avez eu des demandes de reconnaissance, en fait, de cette diversité culturelle qui ont culminé dans les années 50 et qui, finalement, en 1954, suite à l'arrestation d'un des réformateurs du Sud, a amené la création de groupes séparatistes dans le Sud. Et donc, vous avez une première vague de violence séparatiste à partir du milieu des années 50 jusque la signature de l'amnistie en 1980.
Donc si je comprends bien, au fond, les mouvements insurrectionnels sont le fruit d'une tentative de modernisation, je mets des guillemets, en tout cas vue comme telle depuis Bangkok, qui en réalité, vue depuis le Sud, ne sont ni plus ni moins que des politiques d'assimilation en réalité. Et là vont naître les mouvements insurrectionnels finalement.
Oui, je pense qu'on peut dire que cela résulte des efforts du pays de moderniser en fait et d'amener ce sentiment, si vous voulez, ce sentiment d'appartenir à une nation, avoir cette unité au travers du pays. Donc le Sud, aussi bien que le Nord et le Nord-Est aussi de la Thaïlande, ont fait l'expérience de cette politique de modernisation. Mmh. Et donc malheureusement, dans les années, comme je disais tout à l'heure, 54 jusqu'à la fin des années 80, on a eu cette apparition de différents groupes séparatistes qui finalement se sont battus pour une indépendance qui n'a pas abouti. Et ensuite, pendant 20 ans, on a fait face à un grand silence en pensant que voilà, ces réclamations d'indépendance avaient disparu. Mais vous aviez toute une génération qui était en devenir, mais plutôt silencieuse. Et donc, à partir de fin 2001, donc ce n'est pas en lien avec les attentats du 11 septembre, mais à partir de 2001, on a commencé à voir l'apparition d'incidents avec une accélération en 2004. Mmh. Il y a une date qui est très importante, qui marque en fait une volonté des groupes séparatistes dans le sud de la Thaïlande d'être beaucoup plus discrets à partir de 1997, puisqu'il y a eu cette fameuse campagne qui a été documentée par James, le James Review et aussi le Human Rights Watch, qui s'appelle la campagne des feuilles mortes, où plusieurs leaders des mouvements séparatistes ont été exécutés. Et c'était une volonté d'essayer de mettre fin à toute réclamation séparatiste dans le Grand Sud.
Malheureusement, force est constater que ça a été un échec, puisque ces groupes sont toujours là. Alors, il y en a plusieurs, et le principal, c'est le Barisan Révolusi National, qui est toujours en place. Mais lui aussi, il a engagé sa mue, si je puis dire. En tout cas, il s'est modernisé. Vous expliquez que ces dernières années, on a vu ce mouvement séparatiste prendre une nouvelle dimension à travers le réseau Patani 2.0. Je vous cite, d'une lutte traditionnaliste ethno-nationale, l'insurrection du Sud de la Thaïlande s'est ainsi transformé en djihad glocalisé. Vous nous expliquez en quelques mots l'effet de l'émergence des réseaux sociaux, du numérique sur la lutte de ces populations-là ?
Oui, bien sûr. Alors, je pense qu'il faut faire une distinction entre les différentes vagues de militants. Donc, il y a ce qu'on appelle l'ancienne génération, donc qui a combattu aux côtés aussi des communistes dans les années 50 jusqu'à la fin des années 1980. Donc, c'est ce qu'on appelle l'ancienne garde, qui a, un objectif donc c'est une idéologie qui reste relativement ethno-nationaliste avec comme objectif un État indépendant. Ensuite, on fast-forward vers 2001-2004, et là, on a l'émergence d'une deuxième vague de violence, une deuxième campagne de violence, et là, on fait face à une nouvelle génération de militants qui était en devenir depuis 20 ans. Donc, il y a eu recrutement, mobilisation de jeunes, etc., des jeunes qui ont été suivis pendant 20 ans. Et ensuite, vous avez l'émergence de cette nouvelle campagne de violence qui est beaucoup, beaucoup plus violente que la première, avec des décapitations. Par exemple, on n'en a pas beaucoup parlé dans les médias, mais il y a eu entre 2004 et 2009, si ma mémoire ne me fait pas défaut, à peu près 57 décapitations. Et donc à ce moment-là, il y a eu des discussions sur est-ce que cette méthode a été importée du Moyen-Orient, est-ce que il y a une influence du terrorisme international. Et donc moi j'ai parlé de glocalisation parce que C'est un phénomène dans le Grand Sud qui est assez complexe et il est important de comprendre les différentes nuances. Alors, quand je parle de localisation, on me pose souvent la question, est-ce que c'est un copycat, est-ce que c'est une importation du Moyen-Orient? En fait, il faut un petit peu s'imaginer qu'il y a ces grandes bibliothèques avec des idéologies, avec des méthodes, des approches, des techniques, comment fabriquer des bombes, par exemple. Qu'est-ce que le djihad, qu'est-ce que cette notion, quelle est la notion de shuhada ou de martyr, comment elle peut être utilisée. Donc il faut imaginer cette grande bibliothèque où l'on peut finalement choisir certaines idées, certaines méthodes, certaines approches et comment celles-ci peuvent alors être réutilisées dans un contexte qui reste local.
Donc pour résumer, l'influence est là, diffuse, mais elle est forcément là. Un tout dernier point, je vous demanderai une réponse relativement rapide, mais ça me semble important peut-être pour conclure ce point-là. Est-ce que la perspective d'un accord politique est envisageable aujourd'hui ou compte tenu de la radicalisation précisément au fond des deux camps, c'est aujourd'hui impossible?
Impossible, non, très difficile, je pense, parce que vous avez donc il y a aussi une troisième maintenant génération qui est influencée notamment pour certains par l'idéologie de Daesh, qui est beaucoup plus émotionnelle, qui fait dans l'émotionnel, dans la revanche, et donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui vous avez des groupes séparatistes qui sont fragmentés. Et donc les négociations qui sont entamées depuis janvier avec les autorités thaïlandaises, malheureusement, se font avec le BRN, qui est le groupe principal dans le sud de la Thaïlande. Mais malheureusement, le BRN n'a pas de contrôle sur le RKK, par exemple, ou le GMIT, qui sont des groupes beaucoup plus durs, avec un agenda, donc par exemple, où on parle d'État indépendant, mais aussi de califat, par exemple.
Ouais, donc pas impossible, mais très difficile, en particulier compte tenu de la différence d'agenda qu'il y a entre les différents groupes. Merci beaucoup à vous, Virginie André. Merci infiniment. คนฉันก็ยังจนทนขายเพื่อเป้าหมายไม่ขายลูกขายเมียกินฉันไม่ชินการกดขี่จากพันธบัตรฉันต้องกัดฟันเพื่อประหยัดในขณะที่ชนชั้นปกครองยังกดขี่ฉันอยากหนีจากแรงงานไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงทานใช้เป็นแรงคนเท่าแรงควายฉันมีเสียงแต่ฉันไม่มีMerci infiniment à Virginie André qui était avec nous en direct de la Laponie, à Marie-Sibylle de Vienne en direct avec nous depuis Caen et David Camerou ici à Paris. Ça faisait un triangle parfait pour nous éclairer sur cette Thaïlande. Merci infiniment à tous les trois. On se quitte sur ce morceau qui est un morceau de rap qui regroupe, qui est extrait d'une compilation qui est sortie en 2018, qui regroupe des rappeurs et des musiciens thaïlandais qui sont opposés à la junte militaire. David Camerou, je suis sûr que vous n'aviez pas encore ce titre dans votre playlist.
Non, pas encore.
On va vous donner les références, on les met sur la page de Culture Monde et puis on trouve également en référence les ouvrages des uns et des autres que j'ai déjà évoqués. Rendez-vous sur le site de France Culture. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Tal. Mais d'abord, c'est Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et signe des temps, le dictionnaire Merriam-Webster vient de mettre en ligne une nouvelle version de sa définition du racisme.
Oui, il faut savoir que le Merriam-Webster, c'est l'un des plus anciens dictionnaires jamais édités aux États-Unis. Il a été créé en effet par Noah Webster en 1828. Alors la définition qu'il donnait du racisme, il y a encore 3 mois, était la suivante. Croyance selon laquelle la race est le déterminant primordial des capacités et des caractéristiques humaines et les différences raciales produisent la supériorité inhérente d'une race particulière. Alors, les responsables éditoriaux du fameux dictionnaire ont été contactés par une jeune militante noire, étudiante à l'université de Drake dans l'Iowa. Elle leur a reproché de ne pas tenir compte du racisme systémique qui est, dit-elle, le lot des Noirs américains. Alors du coup, la définition corrigée du racisme est devenue la suivante. Doctrine ou programme politique basé sur le postulat du racisme est conçu pour mettre en œuvre ses principes, mais encore, l'oppression systémique d'un groupe racial au bénéfice d'un autre sur les plans sociaux, économiques et politiques. Selon le responsable éditorial du dictionnaire en question, qui s'appelle Peter Sokolowski, il s'agit d'illustrer ainsi l'idée d'une structure de pouvoir asymétrique entre blancs et noirs dans les institutions américaines elles-mêmes. Le linguiste et lexicographe Ben Zimmer s'est amusé pour la revue The Atlantic à reconstituer la généalogie des définitions données par le Merriam-Webster du mot racisme au cours des âges. Et il relève d'abord que le premier dictionnaire de langue anglaise à avoir consacré le terme donc de racism, eh bien c'est l'Oxford English Dictionary en 1903. Du côté américain, le fameux Merriam-Webster ignore encore le racisme en 1934 et lui préfère racialisme. Mais dès l'année suivante, en 35 donc, racism fait son apparition. Mais il renvoie à cette époque, aux États-Unis donc, à l'idéologie totalitarienne nazie. Extrait de la définition de 35, prétention nazie à la supériorité teutonique et l'antisémitisme qui l'accompagne. Alors donc, ça voulait dire ne cherchez pas les racistes, ils sont de l'autre côté de l'Atlantique. Pourtant, il existait déjà à l'époque des militants antiracistes aux États-Unis. L'un des plus connus était le révérend père John Lafarge Jr. Ce jésuite avait publié en 1937 un essai intitulé Interracial Justice, A Study of the Catholic Doctrine of Race Relations. Lafarge a participé au groupe d'intellectuels catholiques réunis par le pape Pie XI pour rédiger la fameuse encyclique Humani Generis Unitas, l'unité de la race humaine, qui enfonçait le clou de la précédente qui s'appelait Mit brennender Sorge, qui condamnait absolument l'antisémitisme nazi et le racisme de manière générale. Hélas, Pie XI est mort le 10 février 1939. Alors que l'encyclique condamnant le racisme était sur son bureau et son successeur Pie XII, beaucoup plus ambigu envers le régime nazi qu'il espérait ménager, s'est bien gardé de promulguer la fameuse encyclique.
Mais alors Brice, l'entrée du racisme systémique dans ce prestigieux dictionnaire change quoi concrètement?
Comme l'écrit Samuel Cronin dans Quillette, jusqu'à une période récente, on englobait sous le terme racisme des comportements individuels. Il dit des réflexes d'antipathie envers un autre, entretenus par des stéréotypes et justifiant des discriminations. Par racisme structurel, institutionnel ou systémique, on entend tout autre chose. Une spécificité inscrite dans les institutions et qui imprègne de manière éventuellement inconsciente le comportement des individus. Dans un article récent de la même revue The Atlantic, John Rice estime, lui, qu'on devrait distinguer trois niveaux de racisme. Le premier renvoie aux comportements individuels racistes tels qu'on les a surtout connus autrefois parce qu'ils sont devenus plus rares dans les États-Unis d'aujourd'hui. En effet, écrit Rice, il y a peu de choses que les blancs américains redoutent davantage que d'être dénoncés comme racistes. Être dévoilé publiquement comme raciste, c'est être accusé du crime moral du plus haut degré en Amérique. Alors le deuxième niveau du racisme, c'est tourner le dos à ceux qui se battent contre le racisme ou les diaboliser. Mais finalement, écrit Rice, le pire racisme, celui du troisième degré donc, c'est celui dont font preuve les institutions et les sociétés lorsqu'elles ne défont pas les pratiques qui désavantagent les gens de couleur dans la compétition avec les blancs, en particulier dans leur carrière professionnelle. Il faut savoir que John Rice dirige une ONG qui s'appelle Management Leadership for Tomorrow, qui se bat pour faire parvenir des diplômés issus des minorités ethniques à des postes importants dans les entreprises. On nous oppose les critères de la méritocratie, écrit-il, mais améliorer la diversité ne compromet pas l'excellence. Il y a un risque à ne pas distinguer le racisme proprement dit des inégalités de réussite entre races, rétorque de son côté Samuel Cronin. Je le cite, « En menant une guerre culturelle contre une force structurelle intangible et généralisée, on se prive de la possibilité d'identifier les actes de racisme et d'en faire honte à leurs auteurs. » Le racisme systémique, je cite encore, est une idée de peu d'usage qui refuse de reconnaître les progrès accomplis dans la stigmatisation des préjugés et la promotion de normes de respect mutuel et de tolérance.
Brice Couturier, ou quand l'évolution de la définition des mots au cours du temps nous éclaire sur l'état de notre monde d'aujourd'hui. Merci beaucoup Brice. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.